C'est une révolte née d'une taxe sur les carburants qui jaillit au cœur de l'automne 2018, le 17 novembre, et ébranle le pouvoir, les gilets jaunes. Un an plus tard, les cortèges se dégarnissent et on cherche d'autres voies pour pérenniser ce mouvement inédit. Beaucoup espèrent un regain de mobilisation à Paris et ailleurs en France aujourd'hui pour ce week-end anniversaire. Avec Patricia Martin, nous recevons ce matin Danielle Salnave, écrivaine, autrice plutôt, il faut dire autrice, membre de l'Académie française. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez publié en mars Jojo le gilet jaune aux éditions Gallimard dans la collection Tract. C'était pas un livre sur les gilets jaunes, mais un livre sur l'attitude méprisante à l'égard des gilets jaunes. À partir d'une phrase d'Emmanuel Macron, il avait dit « Ah, avec vous, les médias, désormais, la parole de Jojo le gilet jaune vaut celle d'un ministre ». Et ça vous avait profondément choqué, Danielle Salnave. Quelle est pour vous la principale originalité de ce mouvement des gilets jaunes ?
Je crois que c'est leur intrépidité. C'est-à-dire que ce sont des gens, hommes et femmes, qui ont pensé que la politique, les grands choix, c'est notre affaire à tous. Et ils ont décidé que c'était leur affaire. Et je trouve que c'est incroyablement intrépide de passer du jour au lendemain du statut d'aide ménagère, de vigile dans un supermarché, diverses professions, et tout à coup dire, je suis citoyen, citoyenne de ce pays, j'ai donc plus que mon mot à dire, je dois contribuer à une transformation qui s'impose. Je trouve ça, voilà, le mot intrépidité me revient tout le temps quand je pense à eux.
Danielle Salnave,
quel courage.
Qu'est-ce qui a changé en France depuis un an, depuis le début du mouvement des Gilets jaunes ?
En un sens, on pourrait dire que rien n'a changé, puisque les difficultés de divers ordres émergent de partout, que les réponses aux questions posées par les Gilets jaunes ont été jugées insuffisantes, pas seulement par les Gilets jaunes. Et en même temps, tout a changé, précisément parce que on a pu voir entouré de morceaux de bois qui flambent, de banderoles plus ou moins déchirées flottant au vent, des hommes et des femmes qui venaient tous les jours, même la nuit, qui étaient là, pour dire « comptez avec nous ». Et ne comptez pas toujours que nous dirons, bien comme on disait en 68, merci papa, merci patron, eh bien merci pour ce que vous faites pour nous. On a voté pour vous, maintenant faites ce que vous avez à faire. Non, que c'est notre affaire à tous. Pour moi, c'est un changement considérable.
Danielle Salnave, ce mouvement des gilets jaunes, est-ce que c'est une illustration d'une formule qu'on avait peut-être un peu oubliée, la lutte des classes ?
C'est très compliqué de dire c'est la lutte des classes. Alors certains qui ont beaucoup d'esprit ont dit c'est plutôt la lutte des places ou la lutte des ronds-points. Oui, la question de la lutte des classes, elle est lourde de tout ce qu'elle a supposé, d'une rigidité et des politiques qui s'appuyaient sur cette notion. Alors on n'est pas très tenté de la reprendre. Et pourtant, on ne peut pas ne pas y penser, puisque il y a eu des confrontations parfois terme à terme, le sentiment que les élites ou ceux qui ont de l'argent, etc. Alors ça fait peur ces propos-là, parce qu'on dit, oh qu'est-ce que c'est du populisme de droite. Mais non, c'est aussi le sentiment que les distances, les différents, les inégalités sont considérables. Je crois que c'est ça le mouvement des Gilets jaunes. C'est le refus des inégalités. Et surtout, des discours qui tendent à rendre légitimes les inégalités. Bah, attendez, on est inégaux, mais enfin tout de même, nous on sait, ou bien on sait, on a réfléchi, croyez-nous, laissez-nous faire. Non, les Gilets jaunes ne veulent plus de ça.
Donc ça veut dire que les 17 milliards d'euros que le gouvernement a mis sur la table pour calmer la colère de ces Gilets jaunes, ça ne résoudra pas ce problème des inégalités.
Voilà, ça ne le résoudra pas. C'est déjà mieux que rien. Je ne vais pas le refuser. Mais tout de même, on voit bien que ça n'a pas suffi. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas le vrai remède à la vraie question.
Patricia Martin.
La demande au départ était celle de la revalorisation du travail, puisqu'en fait, beaucoup de gilets jaunes ont un travail, et quelquefois un travail tout à fait correct malgré tout. Ça a été entendu, mais est-ce que c'est effectif ? Est-ce qu'il y a eu pour autant, même s'il y a effectivement eu des milliards de débloqués, une hausse des salaires digne de ce nom ?
Et en même temps, puisque c'est le mot à la mode, mais après tout, il est indispensable parce que ça veut dire qu'il faut toujours contextualiser, il faut créer les contextes. On a quand même assisté à des statistiques sont sorties montrant que le seuil de pauvreté est franchi par un plus grand nombre de gens qui parfois ne sont pas chômeurs de longue durée ou refusant, comme on laisserait croire, refusant de travailler, pendant que en même temps se développaient des fortunes tout à fait considérables, si considérables qu'on a envie de dire comme ce milliardaire américain, mais venez, prenez-nous un peu quelque chose, parce que on en a besoin pour que le système continue de ne pas créer ces inégalités qui sont refusées maintenant.
Et mais tout à l'heure, Pierre Veil citait Emmanuel Macron, qui donc, au départ, on sait ce qu'il a dit, et qui, depuis, a peut-être aussi évolué dans Time. Il dit que, d'une certaine façon, les gilets jaunes ont été très bien pour lui et que ça lui a rappelé qui il devait être.
Oui, mais il faudrait peut-être le savoir un peu avant. C'est-à-dire que si, vous savez, c'est comme dans un couple ou dans une histoire d'amitié, quand tout d'un coup se révèle que, ah oui, c'est vrai, au fond, je me suis très mal comporté, tu as bien fait de me le faire remarquer. Mais il aurait mieux valu le voir avant, parce qu'on aurait évité bien des choses. Donc, je crois que c'est bien, ça fait plaisir, c'est sympathique, mais c'est tout à fait inquiétant même. Parce qu'on a peur que la vie politique doive être une série de révélations pour le chef suprême d'un pays. Ben, je pense que c'est inquiétant.
Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron est un président durablement affaibli par ce mouvement des Gilets jaunes ?
Durablement, je ne sais pas. Affaibli forcément, ne serait-ce que par cette conscience de cette fragilité liée à « Ah bien oui, j'y avais pas pensé. Oui, il faut que je fasse mon mea culpa. Oui, j'ai eu tort avec des petites phrases. » Mais je crois que ça, c'est bien reçu, forcément. Bien sans plus. C'est-à-dire que ça suscite quand même une sorte de, bon, de distance. On y croit à moitié. On y croit à moitié parce que ça ne devrait pas se révéler à l'occasion de circonstances comme celle-là. Il est certain que les mouvements se multiplient, mais il est tout à fait normal qu'ils se multiplient. C'est aujourd'hui que vont éclater des crises autour de l'hôpital, mais ça ne date pas d'hier, ça ne date pas d'il y a 10 ans, c'est déjà ancien, et déjà des voix s'étaient élevées pour dire, attention, on va vers des crises très graves pour l'hôpital
et
public.
Et pas qu'en France, d'ailleurs aussi, il y a d'autres pays. Est-ce qu'il y a un lien là, parce que c'est des manifestations qui ont été aussi beaucoup couvertes par des médias étrangers, est-ce qu'avec ce qui se passe à Hong Kong ou en Amérique latine...
Ça, c'est tout à fait surprenant, parce qu'on ne sait pas par où communiquerait ces... Est-ce que c'est... Il y a quelque chose dans l'ère du temps, voilà. Les printemps arabes aussi. C'est-à-dire la revendication d'avoir un travail qui soit payé dignement. Après tout, à Tunis, ça a commencé par ce malheureux colporteur, vendeur de sur le marché, qui s'est immolé parce qu'il voyait bien que sa vie était absolument... il était impossible de la mener. Mais on voit partout cette même revendication. Et c'est quelque chose de très étonnant qui marque notre époque. Je trouve que s'il y a un trait qui restera pour l'avenir, c'est ce trait de révolte contre ces inégalités, et qui viennent d'en bas, pas de tout à fait tout en bas, parce que si on est tout à fait tout en bas, on peut même plus se révolter, mais de ces couches qui sont, comme vous l'avez dit, qui ont du travail. Mais je lisais ce matin dans Libération quelques reportages pris comme ça sur des gilets jaunes, ils disent, ben moi je peux pas finir le mois, je vais plus au resto seul, j'ai juste mes vacances au camping, c'est mon seul moment dans l'année, j'achète en promo dans les supermarchés, je fais tout congeler, qu'est-ce que c'est que ça? Ça n'est pas possible, on peut pas vivre comme ça. Avec cette conscience en même temps que le système qui produit tout ça, produit en même temps peut-être des fortunes colossales et absolument inutiles au commun, et en même temps produit une destruction affirmée maintenant et constante des ressources naturelles et de la planète. Mais ça, les Gilets jaunes l'avaient dit, fin du mois, fin du monde, même combat. Ça, c'est formidable quand même.
Un an après le début de ce mouvement des Gilets jaunes, Daniel Salnave, est-ce que la violence est finalement inévitable dans une révolte si on veut faire céder le pouvoir?
Cette question de la violence, je n'en suis pas une spécialiste, mais elle m'interroge ou elle m'interpelle depuis toujours. Il se trouve que j'ai relu complètement Victor Hugo, Les Misérables en particulier. Il y a une réflexion sur la violence qui est formidable. Parce qu'il n'est pas partisan de la violence. Il a tout le temps dit, ouvrez des écoles, vous empêcherez les barricades. Parce qu'il a été effrayé par les répressions, que ce soit celle de juin 48 ou celle de la Commune. Et en même temps, il dit, la violence est inévitable puisque elle est le résultat de la compression de forces qui ne trouvent pas d'autres moyens pour s'exprimer. L'émeute, au fond, il dirait en gros, l'émeute, c'est le commencement douloureux du peuple. Le peuple va commencer à travers l'émeute. Il ne la souhaite pas, mais l'émeute, elle est inévitable. Autour des Gilets jaunes, c'est plus compliqué, parce que sont venus aussi des gens qui n'avaient pas forcément les mêmes intérêts que les Gilets jaunes et qui ont profité pour casser des devantures, ça c'est sûr.
Mais vous admettez que, c'est effectivement, après les événements extrêmement violents en décembre 2018, notamment, on se souvient du saccage des Champs-Élysées, de l'Arc de Triomphe. Après ces événements, le gouvernement a cédé sur plusieurs points.
Bien sûr, et c'était dommage de penser qu'il faut en passer par là. Mais cette violence, il y a toujours la question de la violence, qui a commencé ? Vous savez, je pense toujours à cette phrase de Brecht qui dit « On parle toujours de la violence des fleuves, on ne parle jamais de la violence des digues qui l'enserrent. » Et c'est vrai que la violence, elle est parfois une réponse à une première violence. Une violence est parfois une contre-violence. Mais si c'est elle qui fait céder, alors c'est inquiétant. C'est inquiétant, ça veut dire, là encore, qu'on révèle tout à coup, j'y avais pas pensé, j'avais pas vu venir, et tout à coup, c'est la violence qui vous met les choses sous les yeux.
Daniel Salnave, selon vous, quel est le parti qui a le plus capitalisé sur ce mouvement des Gilets jaunes?
Tout le monde, nous redoutions tous, et il était commode de le redouter, et on nous a poussé aussi à le redouter, que cela ne profite qu'à l'extrême droite. On a tous eu peur de cela. Tous les mots de populisme voulaient toujours dire populisme de droite, c'est-à-dire favorisant les mouvements extrêmes qui sont à la limite républicains. Ils sont des partis, mais tout de même à la limite. Et je ne suis pas sûr qu'ils en aient profité autant qu'ils auraient souhaité. Et ce qui en a profité, qui moi m'inquiète, c'est que ça a permis de mettre en place un face-à-face que je ne souhaite pas du tout, qui serait le face-à-face de l'actuel président de la République au moment où il se représentera, et d'en face, le Rassemblement National. C'est vraiment une chose très dangereuse pour nous, parce qu'à force d'avoir ce face-à-face, le triomphe sera peut-être pas du bon côté. Et je crois qu'il faut absolument pas qu'on entre dans ce discours.
Quand l'OCDE dit qu'il faut 6 générations à l'heure actuelle aux pauvres pour atteindre un niveau moyen, c'était pas le cas autrefois et on pensait que ses enfants auraient un meilleur avenir que le sien propre. C'est pas d'un coup de baguette magique que ça va se résoudre, ça.
C'est pas d'un coup de baguette magique que ça va se régler. N'oublions pas qu'en même temps que le premier anniversaire du mouvement des Gilets jaunes, nous fêtons le 30e anniversaire de la chute du mur. Oui. Moi, je serais tenté de rapprocher. Pourquoi ? Parce que, avec la chute du mur, on a pensé que c'en était fini, d'un régime ONI, qui était un totalitarisme de l'Est, c'est-à-dire de la Russie, du communisme stalinien. Et du coup, quel soupir de soulagement. Maintenant, c'est fini. Oui, mais nous nous retrouvons dans un monde où il n'y a plus d'alternative. Et ne pas avoir d'alternative, d'avoir la seule solution, vous savez de Margaret Thatcher, il n'y a pas d'alternative. T-I-N-A, there is no alternative. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus dangereux, parce que ça contribue à désespérer. Nous sommes à un moment où il faut reconstituer. Tout doit être reconstitué. Alors on peut être effrayé. Tout est à reconstituer. Le désastre politique à gauche comme à droite, il est quand même désastre, j'exagère peut-être, à peine. En tout cas, la décomposition des partis, l'absence de figures qui émergeraient. Mais des discours qui se font entendre, il faut arriver à les fédérer. Ce mot de fédération me plaît beaucoup parce que c'est un mot que l'historien Michelet avait vraiment très bien fait sentir dans son histoire de la Révolution. Il dit le grand moment, c'est les fédérations. 1789-90, où de partout montent des gens, de partout, qui veulent se réunir au point qu'on fait la grande fête des fédérations. Plutôt qu'une grande fête de la violence, je voudrais une grande fête des fédérations. C'est souhaitable. Est-ce que le 5 décembre le sera ? Ça, je ne sais pas.
Le 5 décembre, c'est la journée de mobilisation des syndicats contre la réforme des retraites et le gouvernement craint que d'autres mouvements viennent s'agréger à cette grève annoncée, grève illimitée à la SNCF et à la RATP. Daniel Salnave, vous avez dit que les inégalités sont à la base de cette révolte du mouvement des Gilets jaunes. Mais à votre avis, comment on fait pour lutter, pour réduire efficacement les inégalités?
Si je le savais, je suis très heureux d'être chez vous, mais je serais certainement à des fonctions que je n'ai jamais ambitionnées. Bien évidemment, je ne sais pas comment on va en finir avec les inégalités. Mais en revanche, ce que je sais, c'est qu'il ne faut pas continuer à les creuser, et il faut que ceux qui sont là où ils sont aspirent aussi, non seulement à l'égalité, mais ils aspirent aussi à une reconnaissance. Ils aspirent à une égale dignité. Le mot dignité, il est un peu ambigu. Parfois, on dit oui, il y a une aura religieuse sur le mot dignité. Pour moi, non. C'est la dignité figure d'ailleurs dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Elle s'est ajoutée. Les hommes sont égaux en dignité et en droit. Et ce mot dignité, il est fondamental. Alors, on ne va pas résoudre la question des inégalités, sûrement par mes belles propositions. On avancera quand même un petit peu si on cesse de considérer que les inégalités sont justifiées et que surtout le système dans lequel nous sommes, à la fois politique, économique et social, est le seul possible. Comme il est générateur d'inégalités, si on continue de penser que c'est le seul possible, on n'est pas à la veille d'en sortir.
Et qu'il y ait peut-être moins de mépris de classe.
Absolument, absolument.
Mais quel autre régime ?
je ne vais pas donner la figure de quelque chose qui est dans l'avenir, je donne simplement une figure qui permet aujourd'hui de fédérer, c'est ce qui compte beaucoup, de fédérer des demandes qui peuvent paraître différentes, qui vont dans des sens différents, qui vont de finir correctement le mois, passer, par exemple, la représentation, sur laquelle on dit « Ah, oh, mais ces gilets jaunes, ils sont hostiles à la représentation, c'est pas des bons citoyens, pas du tout. » Ils ont réinventé un dualisme au moment de la Révolution française. Est-ce que le vote, c'est une fois pour toutes, ou est-ce que le vote, c'est le vote pour un député qui devra rendre des comptes. Il demande ça. Ça, c'est une demande fondamentale.
Daniel Salnave.
Et démocratique.
Vous évoquez l'histoire. Mai 68 et les gilets jaunes. Pour vous, il y a des similitudes?
Ben oui, forcément, parce que j'ai la chance, moi, d'avoir vécu mai 68. Oui, les similitudes, c'est le fait qu'on est dans la rue, qu'on rencontre des gens qu'on ne connaissait pas et qu'on ne reverra peut-être pas et avec qui on parle, on échange. À l'époque, on parlait d'autogestion, mais on parlait de changement et on en parlait avec des gens, des inconnus dans la rue. Et ça donnait un changement considérable dans une société qui était ossifiée ou momifiée. La nôtre l'est peut-être aussi, elle a besoin de cela.
Et vous avez le sentiment, pour finir, que la France aujourd'hui, c'est une sorte de chaudron social?
Oui, mais il faut, là encore, tout dépend de l'interprétation qu'on donne à cela. Si c'est pour susciter des peurs, alors on y arrivera. Moi, vous savez, je suis très frappée par un mot d'une gilet jaune qui dit: les riches se partagent le gâteau. Nous, on essaie d'attraper des miettes. Mais on essaie de nous faire croire que les miettes vont être données aux migrants qui vont nous les ôter de la bouche. Eh bien ça, je ne croirai jamais. Je suis très contente que cette femme ait dit ça. Je ne la connais pas, mais je la salue de loin. C'est un propos magnifique.
Daniel Salnave de l'Académie française était notre invité ce matin. Je rappelle ce livre paru au mois de mars, Jojo, les gilets jaunes. Et puis, n'oubliez pas ce magnifique ouvrage paru l'année dernière, L'Églantine et le Muguet.
Merci.
Chez Gallimard, j'ai découvert là, à cette occasion, à travers la vie de Daniel Salnave, l'Anjou. Et je ne connaissais pas, c'était formidable.
Et sa violence interne.
Absolument. Merci beaucoup.
Merci à vous.